L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
Mais tout cela démontre qu'il n'y a aucun sentiment, juste un jeu, une façade. L'école mixte, qui est soi-disant faite pour que les garçons et les filles s'apprécient et qu'ils aient toutes les deux les mêmes chances par égalité, et aussi pour qu'ils se connaissent mieux et chacun apprécie les choses de l'autre et apprenne des choses sur l'un et l'autre, malheureusement les filles se comportent comme les garçons, mais en prenant leur mauvais côté, parlent vulgairement, prennent leurs mauvaises mœurs, etc. Les filles dans leur langage prennent des expressions des garçons les plus vulgaires, et ceci pour faire bien. Tel, tête de nœud, enculé, va te faire foutre, et même mes couilles. Oui, mes couilles. C'est bête parce qu'elles n'en ont pas, et se rendent même pas compte de leur bêtise en parlant comme ça, à toute bouche champ. Cela démontre aussi la stupidité de la mixité. Les filles deviennent vulgaires, les garçons n'ont plus de respect pour les filles, ce qui est normal, vu la façon dont elle se comporte. J'ai lu dans Télérama le résumé d'un téléfilm. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec un homo. Et oui, et elle n'est pas lesbienne. Comme elle aime les hommes, alors, comme tous les deux aiment les hommes, ils passent des heures à la terrasse d'un café à regarder les mecs. Enfin, à lorgner les fesses des mecs. Télérama écrit: l'amour, c'est regarder dans la même direction. Donc, d'après Télérama, ils s'aiment. Bien entendu, ils ne peuvent se regarder parce qu'ils désirent autre chose. Donc, ils s'aiment parce qu'ils regardent en même temps dans la direction les fesses des mecs qui passent. Quelle belle histoire d'amour du XXIe siècle, un Roméo Juliette moderne. Parce que le garçon, bien entendu, veut être père, il arrive à mettre enceinte la fille sûrement en pensant aux fesses des mecs, et elle aussi, et Télérama écrit encore que c'est que d'une façon simple et sans heurts, la fille pense à se faire avorter. Quelle belle histoire d'amour que nous avons là. Et Télérama pense qu'elle est exemplaire. J'ai vu un film au cinéma, très joli d'ailleurs, qui s'appelle Sans elle. Mais tout de même, la fin reste quelque chose de gênant. Le frère, parce que l'histoire, c'est un frère et une sœur. Le frère retrouve calme, liberté, douceur, sérénité en couchant avec sa sœur, en faisant l'amour avec elle. Et elle l'accepte aussi. C'est présenté d'une façon très belle, pure, mais c'est tout de même sa sœur. Je ne suis pas moral. Je suis ni pour la censure, je suis pour la liberté d'expression. Mais ces deux histoires, qui peuvent être vues par tous, ont un arrière-goût gênant. Parce que deux personnes s'aiment sans se désirer et en désirant les autres, et dans l'autre histoire, comme aboutissement amoureux, c'est l'union physique entre un frère et une sœur. Et c'est ça l'union physique entre frères est le seul qui les rend purs et libres. Deux films étranges. Moi qui avais honte de mes histoires, qui ont été censurées pour des questions politiquement non correctes, pourtant, je suis bien en dessous de ce que font les autres. Continuons encore avec les films. Dans le film des frères et sœurs, on montre le Front National comme une bande de voyous, casseurs, etc. Mais cela est ridicule de montrer le Front National comme ça, simplement comme ça. Le Front National, c'est des idées. C'est des têtes, des chefs. C'est un parti politique. Si nous n'avions pas à nous battre contre des idées, mais si on cherche à se battre comme si c'était des ploucs, et si c'était des ploucs, ces gens-là, ben cela ferait longtemps que le Front National n'existerait plus en France. Mais le Front National, c'est autre chose que des ploucs, des voyous. Alors arrêtons de montrer le Front National dans nos films comme des ploucs, des bons à rien. Nous sommes tous des êtres différents. C'est pour ça que nous avons des idées différentes. C'est ce qui nous fait travailler l'esprit et fait avancer le monde. Ce serait terrible si nous avions tous les mêmes idées, même parti politique, même religion, irreligion, même sexualité, même goût, etc., etc. Nous serions que des machines semblables, produits à la chaîne, à Dieu l'humain. Alors, vive les différences, les idées différentes. Vive les différents partis politiques, goûts, etc. Cela empêche la dictature et non au prosélytisme politique, religieux ou autre qui, eux, permettent de mettre la dictature. J'ai vu le film 3, américain, avec Brad Pitt. Les Américains, en changeant le destin des héros de la guerre de Troie, ont détruit tout l'édifice des tragédies grecques. Jean Cocteau avait raison lorsque l'on déplace simplement une virgule d'une œuvre, tout l'édifice s'effondre. Faire mourir le mari d'Hélène au début de la guerre, mourir Agamemnon à Troie, partir Hélène avec son amant, tuer Achille dans la ville de Troie, à la fin de la bagarre, et ceci bêtement sans qu'ils se battent. Ce n'est pas une virgule qu'ils ont déplacé, mais toute l'œuvre d'Homère qu'ils ont démolie, et ceci pour qu'Hélène soit une héroïne sans tache et amoureuse fidèle, et qu'Achille soit un héros qui a une histoire d'amour avec une fille. On le voit la plupart du temps en robe de chambre, si l'on veut, à boire et à jouer avec la fille. Les Américains ont tué toute l'Iliade, ils ont tué aussi toutes les tragédies grecques, parce que si Agamemnon est tué dans la ville de Troie, il n'est plus tué à son retour par sa femme, et son amant. Et s'il n'est pas plus tué par sa femme et son amant, il y a toutes les tragédies grecques qui sont après, qui n'existent plus, qui sont annulées. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus du tout envie d'écrire cette histoire. Elle ne m'intéresse plus. J'ai même envie d'en écrire une autre. Mais enfin, puisque j'ai commencé, il faut la continuer et essayer de la finir. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure de l'écriture, elle va s'améliorer. Cette fois, il faut que je m'applique. Et ça va être difficile à cause de ce temps, de cette chaleur. Il est seulement 8h30 et je suis noyé de chaud. J'ai enfin fini ma vidéo, mes illusionnistes. Plus de 7 heures. Voilà comment je m'y en suis pris. Je l'ai fait tout seul, bien entendu, parce que lorsque l'on est vieux, tout le monde vous laisse tomber. En premier, j'ai voulu me servir de la bande son de mon émission de radio qui est enregistrée en VHS. Je l'ai écoutée en notant dans l'ordre les images qu'il me faudrait. Ensuite, sur mini-disque, j'ai enregistré la bande son en mettant à chaque fois le décor que je voulais, le temps et les fondus. Cela m'a fait 6 mini-disques de 8 heures. Puis, pour le décor intérieur, la maison, etc., pour tous les décors intérieurs, comme on n'a pas voulu me prêter une maison, j'ai décidé de dessiner les décors, colorier et leur mettre avec le chrome maquet des images réelles. Par exemple, j'ai mis une fenêtre pour voir les arbres et la fenêtre était en fond bleu. Ensuite, j'ai enregistré les décors en écoutant le mini-disque pour le temps et les fondus. Aussi, pour voir avec le chromaquet si tout allait bien, j'ai fait des essais. Parce que le chromaquet est très sensible à la lumière ou à la brillance, alors il faut bien régler la lumière pour que ça marche. Pourquoi faire des fondus en direct avec la caméra? Parce que si on fait le chrome maquet, ça bloque tous les autres effets et même les fondus. Ma caméra est une caméra qui fait de la haute définition, 1080 lignes, 16 neuvièmes. Après avoir enregistré les décors, j'ai fait les images réelles avec le temps et ce que je devais filmer, les fondus, etc. Alors j'ai pris mon mini-disque baladeur, ma caméra, et j'ai commencé à filmer. Le premier jour, c'était terrible parce que ma caméra est trop lourde et que je n'arrivais pas à la tenir comme il faut. Cela me faisait du mal. Alors j'ai décidé de prendre un pied en plus de la caméra, du mini-disque, des batteries, des cassettes film, etc. C'était très lourd, mais au bout de plusieurs jours, j'y suis tout de même arrivé. Après, j'ai fait le montage vidéo. En premier, les images, en écoutant le son. Et en faisant ce que j'avais à faire, j'avais à mixer les images décor et les images directes. Et les images décor et les images directes devaient bien se caler parce qu'elles avaient toutes les deux des fondus. Alors j'ai fait comment j'ai fait mon montage. Et comme le son qui était fait avant de faire mes images, n'avait pas prévu de faire les fondus, donc il y a eu des manques. Alors j'étais obligé, c'est de rajouter à mon son qui était prévu des sons, par exemple d'oiseaux ou de rue, pour enlever le manque de son. Maintenant voilà, c'est fini. Avant les illusionnistes, j'ai mis l'histoire Le Jardin, une vidéo qui parle de la création des illusionnistes. Comme ça, tout est bien. Les illusionnistes, c'est une vidéo radio-vision. Parce que les images ne sont que des décors sans personnages et ne racontent pas l'histoire. La radio avec le numérique peut faire passer des images. Les postes de radio auront des petits écrans pour faire passer des images fixes. Ce qui sera bien et ce que j'ai fait pourra passer. Je suis, comme vous voyez, en avance pour le nouveau média Radiovision. Qui était Radiovision, le nom que l'on donnait à la télévision avant que ça s'appelle télévision. Et voilà. Je vous dis aussi, c'est que en tournant les extérieurs de la vidéo, le plus ennuyeux, c'était de tourner dans les rues, les voitures garées et les voitures qui roulaient. Impossible de prendre des plans sans qu'il y ait des voitures. Il y en a de partout. Cela cache la ville, la rend laide. On ne peut pas faire de bons plans. Et puis il y a aussi les gens, la foule, ceux qui font les idiots en voyant une caméra. Ceci pour les scènes de rue. Mais heureusement que la plupart des plans, je les ai faits le matin, souvent très tôt, et que j'ai tourné 90% de mon film dans un parc très touffu, qui a beaucoup d'arbres, et que je me levais à 6h du matin pour aller dans le parc le plus tôt possible, pour qu'il n'y ait personne dans le parc. Ce parc est fantastique, on se croirait vraiment en dehors de la ville. Il est très très touffu et je l'aime. Voilà, c'est fini. Peut-être est-ce qu'un jour vous la verrez. Ma prochaine vidéo, ce sera la guerre des clones. La guerre que les clones font contre les hommes, avec beaucoup d'effets spéciaux. Mais je vous en parlerai lorsque j'aurai fait la chose. J'ai vu dans une librairie du Vieux Lyon, une librairie de films d'occasion, un album illustré d'après les photographies du film d'Albert Lamorisse, Crin Blanc. Crin Blanc est un court-métrage de 1953. Il y a eu le Grand Prix international du court-métrage à Cannes en 1953. Prix Jean Vigo 1953. Épi d'or du film d'art, Rome 1953. Grand Prix de la critique polonaise 1956. Grand Prix internationaux de films récréatifs pour enfants. Prix décerné par un jury d'enfants, catégorie garçon Paris 1954, catégorie garçon Varsovie 1957. Le film est distribué en circuit commercial en 35 mm et 16 mm. Il est distribué en circuit non commercial par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un film j'ai vu qu'une fois à télévision dans les années 60 et n'est jamais passé. C'est un film admirable qui a des images à vous couper le souffle et le montage, le scénario, tout est formidable. Même le jeune comédien qui a le rôle principal, le petit enfant aussi est vraiment bien. Le cheval, n'en parlons pas. Je sais pas s'il y a eu plusieurs chevaux pour jouer le rôle ou qu'un cheval, parce que des fois on fait jouer un rôle d'un animal par plusieurs animaux. Alors j'ai pris ce livre parce que d'abord j'avais cherché des VHS ou des DVD. Malheureusement ça n'existe plus. Il n'y en a plus, il n'y en a pas, ça n'a jamais été fait. Grimblanc a eu beaucoup de succès, comme vous avez vu, il a eu beaucoup de prix. Et c'était des prix qu'à l'époque on donnait des prix surtout pour le côté esthétique, artistique du film, et non pour le côté poétiquement correct ou pour faire plaisir à certains pays. Et là, je trouve que c'est vraiment mérité le prix, les prix qu'il a eus. C'est un véritable petit chef-d'œuvre. Les images d'une beauté incroyable, j'espère c'est qu'on puisse l'avoir en DVD ou en passe à la télévision, mais malheureusement, comme c'est un court-métrage, il faudrait peut-être mettre plusieurs films. Albert Lamoury, c'est vraiment un très grand metteur en scène. Quelques années plus tard, le jeune comédien qui jouait dans Grimblanc, la télévision française, après le succès du feuilleton Rintintin, qui passait à la télévision tous les jours avant le journal de 20h, a décidé c'est de faire aussi un feuilleton sur les Indiens. Alors, ils avaient besoin d'un bon cavalier. Ils ont demandé au jeune comédien. Le jeune comédien disait, ça faisait déjà plusieurs années qu'il avait fait Grimblanc, je ne sais plus monter à cheval parce que ça fait longtemps que j'en fais plus. On lui a dit, mais ça n'a pas d'importance, tu verras, le cheval c'est comme du vélo, on monte dessus, on réapprend tout de suite. Il a fait et il est arrivé. Le film est un film qui a été tourné en 16 mm et en couleur. 16 mm pourquoi? Parce qu'avant, toutes les télévisions du monde, sauf les américaines, les télévisions américaines qui filmaient en 35 mm, mais toutes les autres filmaient en 16 mm. D'abord parce que c'était moins cher, et en plus de ça, le format télévision, c'est du 16 mm. Donc c'est. Et pourquoi c'était tourné en couleur? Parce qu'on croyait qu'on allait bientôt avoir la télévision en couleur. C'est encore une époque très très lointaine où il y avait très peu d'heures d'émission et la télévision était en noir et blanc. Or, le feuilleton a été tourné, malheureusement il a été diffusé, les gens n'ont il n'y a pas eu de succès parce que il a été fait avec très peu de moyens, ce qui fait que les gens l'ont boudé. Et on ne l'a jamais vu en couleur, il est passé qu'en noir et blanc. Voilà pour Grimblanc. J'espère que je verrai. Grimblanc fait partie de ces films pour enfants que l'on faisait avant. Ou qu'on le faisait en France jusqu'à la fin des années 50. On faisait des films pour enfants. On en faisait peu, mais on en faisait tout de même. C'était des films de très grande qualité. Très bien fait. Ensuite, on n'a plus fait, c'était fini. Les intellos sont rentrés dans le monde du cinéma et ça a été fini. n'y a plus de vrais films pour enfants. Je dis bien de films pour enfants et pas des films pour soi-disant famille. Alors, parmi ces films pour enfants, il y avait un autre aussi, qui est à peu près de la même période. C'était peut-être plus vieux. Il s'appelait Ballon Rouge. Ballon Rouge, c'est l'histoire d'un petit enfant qui habite à Paris, dans un quartier populaire, du côté de la Butte. Et cet enfant a perdu un ballon. Vous savez, ces espèces de ballons gonflables là, en plastique transparent. Et bon, il recherche son ballon dans un Paris que l'on voit d'après-guerre avec... comment dire, ses ruines, enfin, etc., etc. Parmi les acteurs, les petits garçons qui jouent, il y a Renaud. Et oui, le chanteur Renaud, tout enfant, a joué dans ce film parce que son oncle était producteur de films. Je ne sais pas. Il y avait aussi un autre film, mais là je ne me souviens plus du titre, c'est l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille qui rencontre un petit génie. Ce génie, avec une boule particulière, les fait voyager en Chine en restant sur leur lit. Alors on les voit voyager, monter dans le ciel, etc. et débarquer sur la place rouge avec leur lit. Le film a une particularité, c'est que tous les trucages ont été faits en direct, ils n'ont pas été faits au montage ou en laboratoire. C'est un film intéressant aussi. Il y a aussi un film qui est beaucoup plus, encore un autre film pour enfants. Tous ces films pour enfants, on ne les voit plus malheureusement. C'est dépassé, puis les enfants, malheureusement, à notre époque, ça ne les intéresserait pas maintenant. Ils sont... Ce qui les intéresse, c'est beaucoup, c'est autre chose, quoi. Je m'imagine Crin Blanc Feu. Modernisé, le jeune serait en basket, en bermuda, t-shirt jaune ou rouge, il aurait une casquette de rappeur et aurait une planche à roulettes. Vous voyez le truc, il aurait sa copine, plus ses potes qu'il regarderait en train de faire, en train d'essayer de dompter le cheval et bon, ce serait tout à fait. Il n'y aurait plus rien de poétique avec des scènes où les jeunes parlaient comme maintenant, ça n'a fait aucune poésie, rien. Alors, je disais, il y a un troisième film aussi qui était pour les enfants aussi, qui s'appelait Le Petit Télégraphiste, qui là est beaucoup plus ancien. C'est l'histoire d'un jeune qui est télégraphiste. C'est un jeune qui doit avoir 13-14 ans, parce qu'avant, on travaillait très tôt. Hein, on travaillait à 13-14 ans, c'est pas comme maintenant. À 9 ans, il y a certains qui passaient leur certificat d'études. C'était rare, mais il y en avait quand même. Alors ce petit télégraphiste, un jour, on lui dit d'aller porter un télégramme à Édouard Herriot. Malheureusement, l'enfant perd le télégramme. Grosse catastrophe, Édouard Herriot est président du conseil à cette époque-là, donc ça devait être un télégramme très important. Alors tous les gens du quartier où il a perdu le télégramme, aide le pauvre jeune homme à retrouver son télégramme. Et ça montre un petit peu tous les gens de peuple, le peuple, le quartier populaire de Paris, etc., etc. La recherche dure très longtemps, elle dure jusque la nuit. Même tard dans la nuit, on retrouve le télégramme. Et malheureusement, on s'aperçoit, c'est que, en allant porter le télégramme, c'est que ce n'est pas Édouard Herriot, le président du conseil, mais Édouard Herriot, un charbonnier qui était pour lui le télégramme. Voilà. C'était des films très intéressants, enfin, qui étaient intéressants pour nous, parce qu'à notre époque, malheureusement, les gens ont changé, leur goût a changé, c'est plus pareil, alors ma foi. Mais ça vaudrait peut-être la peine, c'est qu'on les rediffuse et qu'on les revoie. C'est peut-être intéressant. J'ai lu un article complètement idiot dans Le Monde Magazine du 16 juillet 2005. Des gens qui veulent avoir une quatrième et que l'on revendique une quatrième identité sexuelle, no sex. Ce sont des personnes qui revendiquent publiquement et veulent être reconnues par la société parce qu'ils n'ont pas de rapport sexuel d'après eux. À notre époque, l'on revendique tout et n'importe quoi. On se veut individualiste, mais l'on veut que son individualisme soit reconnu par la société et ses soi-disant particularités soient reconnues. Publiquement et de n'importe quoi. Il suffit qu'une personne lève le petit doigt d'une façon spéciale pour qu'elle forme un collectif pour pouvoir être reconnu pour cela. Et ceci pour tout. Quant à la sexualité, la société n'interdit pas quoi que ce soit du moment que ça ne nuit pas ni à soi ni aux autres. Et surtout, n'interdit pas que l'on reste vierge si l'on veut, du moment que ce n'est pas une contrainte forcée, un chantage ou autre. Mais dire ouvertement que l'on est vierge et que l'on veuille le rester, à quoi cela sert-il ? Et que l'on veut être reconnu vierge. Et que l'on veut être, se sentir particulier, être reconnu à part particulier. À quoi cela sert-il à la société de savoir que monsieur ou madame soit vierge ? Et à quoi cela leur sert-il qu'on le sache ? Une personne qui se dit non-sexe dit qu'il se masturbe. Pour moi, se masturber, c'est sexuel. On peut le faire à plusieurs, par fantasme, pour une autre personne. La masturbation, quelle soit et comment on la pratique, fait partie de la sexualité sexuelle et qu'on vienne m'expliquer le contraire. Alors que cette personne qui se dit non-sexe et qui se masturbe n'est pas non-sexe. Je pense que ces jeunes non-sexes sont pour la plupart timides. On peur des autres et d'eux-mêmes et sont peut-être aussi homosexuels et n'osent pas se le dire et le dire aux autres. Le sexe, même l'Église, même pour les prêtres, est en nous, indissociable à nous. Pour être non-sexe, il faut une grande volonté, une maladie, et surtout pas se masturber. On peut être non-sexe en ayant des désirs, mais ces désirs ne vous font pas se masturber ou autre. Et puis arrêtons de dire publiquement tous nos faits et gestes et de dire tout ce que l'on ressent pour prouver que l'on est à part les autres, avec ou sans sexualité, Nous sommes des êtres humains faits de la même chose. Et nous avons les mêmes besoins. Revendiquer des particularités de quoi? Pourquoi? Et la plupart du temps, est-ce des particularités? Être vierge, tout le monde l'a été. Beaucoup ne le sont plus. Et ceux qui le restent, ben, il faut le reste. Et alors? Pourquoi en faire tout un plat? Et puis ne rendons pas public tout et n'importe quoi. Attention à tout se dévoiler, cela risque de nous nuire. La vie intime doit le rester comme les lois doivent respecter la vie privée. Lorsque nous étions enfants, nous étions gênés de ne pas avoir de vie intime devant nos parents et les autres. Même se laver n'était pas intime. Alors, être adulte, c'est avoir le droit d'avoir une intimité. Une intimité qui ne regarde personne, c'est un privilège. Pourquoi le gâcher par des confessions? Peut-être que les gens de notre époque ne sont plus aussi adultes pour accepter leur liberté et ont besoin d'un œil pour les regarder et qu'ils ont besoin qu'on approuve comme les gosses tout ce qu'ils font et qu'on leur donne des points de bonne conduite, qu'on leur donne comme les gosses la permission de faire ceci ou cela. Les adultes se croient encore à l'école. Un ami, M. Giacomo, m'a donné un vieux livre scolaire d'histoire de 1889, Histoire grecque de M. Victor Duruy. J'ai trouvé ce livre très intéressant et bien écrit, merveilleusement bien écrit, et très compétent et complet par rapport aux livres d'histoire. Enfin, si on peut appeler ça des livres d'histoire que l'on donne maintenant aux jeunes pour qu'ils puissent apprendre. Et nous voyons la dégradation de ces livres d'histoire. J'étais passionné par ce livre. J'aime beaucoup l'histoire grecque, qui fait partie de notre histoire, surtout pour moi, qui est un nom arien qui veut dire toujours jeune. En lisant l'histoire de la Grèce antique, je me suis rendu compte que les guerres, même celles de Troie, étaient déjà des guerres économiques. C'était des histoires de domination, de droit, de péage, etc., etc. On détruisait une ville, un peuple, parce que vous faisiez de l'ombre du point de vue économique. Déjà du temps antique, on faisait déjà ça. La Grèce classique antique n'a pas duré longtemps parce que les Grecs se sont battus entre eux, entre Athènes et Sparte. Il y a eu des guerres des guerres qui ont duré des années et des années parce que Sparte était jalouse d'Athènes. Athènes, c'était la culture, c'était la douceur de vivre, tandis que Sparte, c'était tout à fait autre chose, la rudesse, si l'on veut. Il y avait des guerres terribles et ça a beaucoup détruit, ça a détruit et démoli le monde grec. Les Macédoniens en ont profité. Les Macédoniens n'étaient pas des Grecs, ils étaient ce qu'on pouvait appeler avant là-bas des barbares, c'était un autre peuple, et ils savaient à peine parler grec, ils avaient des difficultés à parler grec, mais ils adoraient la culture grecque. Ils avaient une passion pour la Grèce. Alors, lorsqu'ils ont conquis la Grèce, ils ont préservé et conservé la Grèce. Mais malheureusement, ça a aussi permis la dégradation de la Grèce. C'était plus la Grèce qui dominait le monde à partir d'eux. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a beaucoup plu. Pouvez pas savoir comme ça me fait mal de voir nier notre culture, la dénigrer, la salir. Moi, je garde dans mon corps. C'est en moi, c'est à moi. La culture de mon peuple, de mon pays. Pour moi, c'est précieux, tout ce qui est ma famille. Mon peuple, le pays. Tout ça a fait ce que je suis. Tout ça, c'est moi. Et nier tout ça, c'est comme si on me niait. Et puis, nier tout ça, c'est nier la différence vis-à-vis des autres. C'est nous enfoncer, c'est m'enfoncer. Et faire comme si je n'existais plus, comme si l'on n'existait plus. Voilà ce que je voulais vous dire en levée de rideau. Pardonnez-moi, c'était un peu long, quoique je ne le pense pas. Maintenant, place à la création, place au rêve, rêve qui peut être aussi un cauchemar. À la création. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.